Extrait d'un commentaire oriental particulier, tenu jusqu'à présent secret. Cet enseignement ne se rapporte pas à Prakriti Purusha au-delà des limites de notre petit univers. 17. L'existence initiale, à la première aurore du Mahamandvantara, après le Mahapralaya qui suit chocage de Brahma, est une qualité spirituelle consciente. Dans les mondes manifestés, entre parenthèses les systèmes solaires, elle a, dans sa subjectivité objective, l'aspect d'une pellicule produite par un souffle divin aux yeux du voyant en état d'extase. En sortant du laya, c'est-à-dire l'état de repos final, la condition nirvanique du septième principe, elle se répand à travers l'infini sous forme d'un fluide spirituel incolore. Elle est sur le septième plan, et dans son septième état, dans notre monde planétaire. 18. Elle est la substance de notre vue spirituelle. Elle ne peut être appelée ainsi par les hommes dans leur état de veille, c'est pourquoi ils l'ont nommée dans leur ignorance Dieu-Esprit. 19. Elle existe partout et forme le premier Upadi, fondation, sur laquelle notre monde, le système solaire, est construit. En dehors de ce dernier, on ne le trouve, dans sa pureté primitive, qu'entre les systèmes solaires ou les étoiles de l'univers, les mondes déjà formés ou en voie de formation, ceux en laya se reposant, en attendant dans son sein. Comme sa substance est différente de celle qui est connue sur la Terre, les habitants de cette dernière, voyant à travers elle, se figurent dans leur illusion et leur ignorance que c'est de l'espace vide. Il n'y a pas dans tout l'univers illimité l'épaisseur d'un doigt, Angula, d'espace vide. 20. La matière ou la substance est septénaire dans notre monde comme elle l'est aussi au-delà. En outre, chacun de ces états ou principes est gradué en 7 degrés de densité. Surya, le soleil, dans sa réflexion visible, montre le premier état ou le moins élevé du septième degré, l'état le plus élevé de la présence universelle, le pur parmi les purs, le premier souffle manifesté du Sat, être-té, à jamais non manifesté. Tous les soleils centraux physiques ou objectifs sont dans leur substance l'état le moins élevé du premier principe du souffle. Et ces soleils ne sont autre chose que les réflexions de leurs principes qui sont cachés à la vue de tous, sauf des Dhyan Chohan, dont la substance corporelle appartient à la cinquième division du septième principe de la substance mère et est en conséquence de 4 degrés plus élevés que la substance solaire réfléchie. Comme il y a 7 dhatu, substance principale du corps humain, de même il y a 7 forces dans l'homme et dans toute la nature. 21. La substance réelle du soleil caché est un noyau de substance mère. Note. Ou le rêve de la science, la vraie matière primordiale homogène qu'aucun mortel ne peut rendre objective, ni dans cette race, ni même dans cette ronde. Fin de la note. C'est le cœur et la matrice de toutes les forces vivantes et existantes de notre univers solaire. C'est le noyau d'où sortent, pour s'épandre durant leur voyage cyclique, tous les pouvoirs qui mettent en action les atomes dans l'exercice de leurs fonctions. Et c'est le foyer dans lequel ils se rencontrent de nouveau dans leur septième essence tous les 11 ans. Si quelqu'un te raconte qu'il a vu le soleil, moque-toi de lui comme s'il te disait que le soleil se déplace réellement sur son orbite quotidienne. Note. Vishnu, sous la forme de son énergie active, ne se lève ni ne se couche jamais, et il est à la fois soleil septuple tout en étant distinct de lui, dit la Vishnu Purana. Fin de la note. 23. C'est à cause de sa nature septénaire que les anciens parlent du soleil comme étant traîné par 7 chevaux, égaux aux vers des Védas. Ou encore ils disent que bien qu'il soit identifié avec les 7 ganas, classes d'être, dans sa révolution il est distinct d'eux, comme il l'est en vérité, et aussi qu'il possède 7 rayons, ce qui est vrai. Note. De même qu'un homme s'approchant d'un miroir placé sur un meuble y voit sa propre image, de même, l'énergie ou réflexion de Vishnu, le soleil, n'est jamais séparée, mais reste dans le soleil comme un miroir qui est placé là. 25. Les 7 êtres dans le soleil sont les 7 sacrés, nés d'eux-mêmes, du pouvoir inhérent à la matrice de la substance mère. Ce sont eux qui envoient les sept forces principales, appelées rayons, qui au commencement du pralaya se concentreront en sept nouveaux soleils pour le prochain Manvantara. L'énergie d'où elles jaillissent à l'existence consciente dans chaque soleil est ce que quelques-uns appellent Vishnu, qui est le souffle de l'absolu. Nous l'appelons la vie unique manifestée, elle-même reflet de l'absolu. 27. On ne doit jamais faire mention de ce dernier en parole, de peur qu'il n'enlève une partie de nos énergies spirituelles, qu'il aspire à son état, gravite toujours vers lui spirituellement, comme l'univers physique tout entier gravite vers son centre manifesté cosmiquement. 28. La première, l'existence initiale, qu'on peut appeler, pendant qu'elle est dans cet état d'existence, la vie unique, et comme nous l'avons expliqué, une pellicule voilant les projets de création et de formation. Elle se manifeste en sept états qui, avec leurs subdivisions septénaires, forment les 49 feux dont on parle dans les livres sacrés. 29. Le premier est la mère, prima materia. Se subdivisant dans ses sept états primaires, elle descend par cycle. Lorsqu'elle est consolidée dans son dernier principe, comme matière grossière, elle tourne sur elle-même et anime, avec la septième émanation du dernier, le premier et le moins élevé des éléments, le serpent qui se mord la queue. Dans une hiérarchie ou un ordre d'être, la septième émanation de son dernier principe est, petit a, dans le minéral, l'étincelle qui gît latente en lui et qui est appelée à son existence fugitif par le positif qui éveille le négatif, et ainsi de suite. Petit b, dans la plante, c'est cette force vitale et intelligente qui anime la graine et la fait se développer en brin d'herbe, en racine ou en jeune plante. C'est le germe qui devient l'upadi des sept principes de la chose dans laquelle il habite, les faisant pousser au fur et à mesure que cette dernière grandit et se développe. Petit c, dans chaque animal, elle fait de même. C'est son principe de vie et son pouvoir vital. Son instinct et ses qualités, ses caractéristiques et ses idiosyncrasies spéciales. Petit dé, à l'homme, elle donne tout ce qu'elle confère à toutes les autres unités manifestées dans la nature, mais elle développe de plus en lui la réflexion de tous ses 49 feux. Chacun de ces sept principes hérite complètement des sept principes de la Grande Mère et y participe. Le souffle de son premier principe est son esprit, Atma. Son second principe est Bouddhi, l'âme. Nous l'appelons à tort le septième. Le troisième lui donne la matière cérébrale sur le plan physique et le mental qui la met en mouvement et qui est l'âme humaine, selon ses capacités organiques. Petit e, c'est la force dirigeante des éléments cosmiques et terrestres. Elle réside dans le feu poussé hors de son état latent à un état actif, car toutes les sept subdivisions du principe résident dans le feu terrestre. Elle tourbillonne avec la brise, souffle avec l'ouragan et met en mouvement l'air, élément qui participe aussi à l'un de ses principes. Procédant par cycle, elle règle les mouvements de l'eau, attire et repousse les vagues selon des lois fixes, dont son septième principe est l'âme qui les anime. Note. Les auteurs de ces lignes connaissaient parfaitement la cause physique des marées, des vagues, etc. C'est l'esprit animateur du corps solaire cosmique tout entier dont on parle ici, et dont on parle chaque fois que l'on se sert de ces expressions au point de vue mystique. Fin de la note. Petit f, ces quatre principes supérieurs contiennent le germe qui devient les dieux cosmiques. Ces trois principes inférieurs enfantent les vies des éléments, entre parenthèses élémentaux. Petit g, dans notre monde solaire, l'existence unique est le ciel et la terre, la racine et la fleur, l'action et la pensée. Elle existe dans le soleil et aussi dans le ver luisant. Pas un atome ne peut y échapper. Aussi les anciens sages l'ont-ils sagement appelé le Dieu manifesté dans la nature. Il serait peut-être intéressant de saisir cette occasion pour rappeler au lecteur ce que Subaru a dit de ses forces, décrites au point de vue mystique. Citation. Kanya, le sixième signe du zodiaque ou la Vierge, signifie une Vierge et représente Shakti ou Mahamaya. Le signe en question est le sixième Rashi ou division et indique qu'il y a six forces primordiales dans la nature, synthétisées par la septième. Ces Shaktis se présentent dans l'ordre suivant. Premièrement, Parashakti, littéralement la grande ou suprême force ou puissance. Elle signifie et contient les pouvoirs de la lumière et de la chaleur. Deuxièmement, Jnana Shakti, littéralement le pouvoir de l'intellect, de la vraie connaissance ou sagesse, il a deux aspects. Premièrement, voici quelques-unes de ses manifestations lorsqu'il est placé sous l'influence ou le contrôle des conditions matérielles. Petit a, la faculté que possède le mental d'interpréter nos sensations. Petit b, sa faculté de rappeler les idées passées, la mémoire, et de faire naître des espérances futures. Petit c, sa faculté qui découle de ce que les psychologues modernes nomment les lois d'association, et qui lui permet de former des liens persistants entre les divers groupes de sensations et de possibilités de sensations, et de donner ainsi naissance à la notion ou à l'idée d'un objet extérieur. Petit d, sa faculté de relier nos idées entre elles par le lien mystérieux de la mémoire, et de créer ainsi l'idée du soi ou de l'individualité. Deuxièmement, voici maintenant quelques-unes de ses manifestations lorsqu'il est libéré des liens de la matière. Petit a, la clairvoyance, petit b, la psychométrie. Troisième Shakti, Isha Shakti, littéralement le pouvoir de la volonté. Sa manifestation la plus ordinaire est la création de certains courants nerveux qui mettent en mouvement les muscles nécessaires pour accomplir ce que l'on veut faire. Quatrièmement, Kriya Shakti, la mystérieuse faculté de penser qui lui permet de produire, par la seule énergie qui lui est inhérente, des résultats phénoménaux externes et perceptibles. Les anciens tenaient pour certain qu'une idée quelconque se manifestera extérieurement si on concentre profondément son attention sur elle. De même, une volition intense sera suivie de la réalisation du désir. Un yogi accomplit généralement ses prodiges au moyen d'Isha Shakti et de Kriya Shakti. Cinquièmement, Kundalini Shakti. La faculté ou la force qui se meut suivant une trajectoire serpentine ou courbe. C'est le principe de vie universel qui se manifeste partout dans la nature. Cette force comprend les deux grandes forces d'attraction et de répulsion. L'électricité et le magnétisme ne sont que deux de ces manifestations. C'est le pouvoir qui produit cet accord continu des relations internes avec les relations externes, qui est, selon Herbert Spencer, l'essence de la vie, et cet accord continu des relations externes avec les relations internes qui est la base de la transmigration des hommes. Pour Narjanman, Renaissance, dans les doctrines des anciens philosophes hindous. Un yogi doit maîtriser à fond cette faculté ou cette force avant de pouvoir atteindre Moksha. Cette force est en fait le grand serpent de la Bible. Sixièmement, Mantrika Shakti. Littéralement la force ou le pouvoir des lettres, de la parole ou de la musique. Toute l'ancienne mantra shastra renferme cette force ou pouvoir dans toutes les manifestations qui sont de son ressort. L'influence de la musique est l'une de ses manifestations ordinaires. La puissance du nom mirifique et ineffable est la couronne de cette shakti. La science moderne n'a approfondi qu'en partie la première, la seconde et la cinquième des forces ou des facultés que nous venons de nommer, mais reste entièrement dans les ténèbres en ce qui concerne les autres. Les six forces sont, dans leur unité, représentées par la lumière astrale, Daivi Prakriti, la septième, la lumière du Logos. Nous avons fait ces citations pour montrer quelles sont, à ce sujet, les véritables idées hindoues. C'est tout à fait ésotérique, bien que cela n'embrasse pas la dixième partie de ce qui pourrait être dit. Ainsi, les six noms des six forces mentionnées sont ceux des six hiérarchies de Dian Chuan, synthétisé par la primaire, la septième, qui personnifie le cinquième principe de la nature cosmique ou de la mère dans son sens mystique. L'énumération seule des pouvoirs du yoga demanderait 10 volumes. Chacune de ces forces a à sa tête une entité consciente et vivante, entité dont elle est une émanation. Mais comparons avec le commentaire que nous venons de citer, les paroles d'Hermès, le trois fois grand. La création de la vie par le soleil est aussi continue que l'est sa lumière. Rien ne l'arrête ni ne la limite. Autour de lui, comme une armée de satellites, sont des cœurs innombrables de génies. Ceux-ci habitent dans le voisinage des immortels et de la veille sur les choses humaines. Ils accomplissent la volonté des dieux. Karma, au moyen d'orages, de tempêtes, de transitions, de feux et de tremblements de terre, ainsi que par des famines et des guerres pour la punition de l'impiété. C'est le soleil qui conserve et nourrit toutes les créatures, et de même que le monde idéal, qui entoure le monde sensible, remplit celui-ci de la plénitude et de l'universelle variété des formes, de même le soleil, enveloppant tout de sa lumière, détermine partout la naissance et le développement des créatures. Sous ses ordres se trouve le cœur des génies, ou plutôt les cœurs, car ils sont nombreux et différents et leur nombre correspond à celui des étoiles. Chaque étoile a ses génies, bons et mauvais par nature, ou plutôt par leur action, car l'action est l'essence des génies. Tous ces génies président aux affaires du monde. Note, les dieux ou Dhyani aussi, pas seulement les génies ou les forces dirigées. Ils ébranlent et renversent la constitution des états et des individus. Ils impriment leur ressemblance sur nos âmes. Ils sont présents dans nos nerfs, dans notre moelle, dans nos veines, dans nos artères et dans la substance même de nos cerveaux. Au moment où chacun de nous reçoit la vie et l'existence, les génies élémentaux qui président aux naissances et qui sont classés au-dessous des pouvoirs astraux, esprit astro surhumain, se chargent de lui. Note. La signification de cela est que l'homme étant composé de tous les grands éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre et l'éther, les élémentaux qui appartiennent respectivement à ces éléments se sentent attirés vers l'homme en raison de leur coessence. L'élément qui prédomine dans une certaine constitution sera l'élément dirigeant pendant la vie. Par exemple, si chez l'homme l'élément terrestre, l'élément gnomique a la prépondérance, les gnomes le conduiront à amasser des métaux, de l'argent, des richesses et ainsi de suite. L'homme animal est le fils des éléments animaux, d'où est née son âme, et les animaux sont les miroirs de l'homme, dit Paracelse. Paracelse était prudent et voulait que la Bible s'accordât avec ce qu'il disait, et c'est pourquoi il ne disait pas tout. Fin de la note. Il change perpétuellement, pas toujours identiquement, mais en progression circulaire. Ils imprègnent par le corps deux parties de l'âme, afin que celui-ci puisse recevoir de chacune l'impression de sa propre énergie. Mais la partie raisonnable de l'âme n'est pas soumise au génie. Elle est destinée à recevoir le Dieu qui l'illumine d'un rayon solaire. Note. Le Dieu dans l'homme est souvent l'incarnation d'un Dieu, un Dhyan Chohan hautement spirituel qui est en lui, outre la présence de son propre septième principe. Ceux qui sont illuminés sont très peu nombreux, et les génies s'éloignent d'eux, car ni génie ni Dieu n'ont de pouvoir en sa présence d'un seul rayon de Dieu. Note. De quel Dieu veut-on parler ici? Ce n'est pas de Dieu le Père, la fiction anthropomorphique, car ce Dieu-là est la collectivité des Elohim et n'existe pas en dehors de la Légion. De plus, un tel Dieu est fini et imparfait. Ce sont les grands initiés et adeptes dont on fait mention ici en parlant des peu nombreux. Et ce sont précisément de tels hommes qui croient au Dieu et qui ne connaissent pas Dieu, mais une divinité universelle, sans parenté et inconditionnée. Fin de la note. Mais tous les autres hommes, corps et âmes, sont dirigés par des génies à qui ils s'attachent et dont ils effectuent les actions. Les génies ont par conséquent le contrôle des choses mondaines de nos corps et leur servent d'instruments. Ce que nous venons de citer, à l'exception de certains points particuliers, représente ce qui était une croyance universelle commune à toutes les nations, jusqu'à il y a environ un siècle. Elle est encore tout aussi orthodoxe, dans ses grandes lignes et ses traits principaux, parmi les païens comme parmi les chrétiens, à l'exception d'une poignée de matérialistes et d'hommes de science. En effet, qu'on appelle les génies d'Hermès et ses dieux, puissance des ténèbres et anges comme dans les églises grecques et latines, ou esprit des morts comme dans le spiritisme, ou encore Buts et Deva, Chaitan ou Jin, comme on les dénomme encore dans les pays indiens et musulmans, ils ne sont tous qu'une seule et même chose, une illusion. Qu'on ne se méprenne toutefois point à ce sujet, comme l'ont fait dernièrement les écoles occidentales au sujet de la grande doctrine philosophique des Védantins. Tout ce qui est émane de l'absolu, qui en raison même de ce qualificatif est la seule et unique réalité. Donc tout ce qui est en dehors de cet absolu, de cet élément générateur et causal, doit indéniablement être une illusion. Mais il en est ainsi qu'au point de vue purement métaphysique. Un homme qui se considère comme mentalement sain et que ses voisins considèrent comme tel, appelle de même les visions d'un frère déséquilibré, visions qui rendent leur victime heureuse ou extrêmement malheureuse suivant le cas, des illusions et des fantaisies. Mais où est le fou pour qui les ombres hideuses de son mental troublé, ses illusions, ne sont pas momentanément aussi vraies et aussi réelles que les choses que peuvent voir son médecin ou son gardien? Tout est relatif dans cet univers, tout n'est qu'une illusion. Mais l'expérience faite sur n'importe quel plan est une réalité pour l'être qui la perçoit et dont la conscience est sur ce même plan, bien que cette expérience, considérée au point de vue purement métaphysique, puisse être conçue comme n'ayant pas de réalité objective. Mais ce n'est pas contre les métaphysiciens. C'est contre les physiciens et les matérialistes que l'enseignement ésotérique doit lutter. Et pour ceux-ci, la force vitale, la lumière, le son, l'électricité, et même la force objectivement attractive du magnétisme, n'ont pas d'existence objective et sont tenus pour de simples modes de mouvement, pour des sensations et des manières d'être de la matière. Ni les occultistes en général, ni les théosophes ne rejettent, comme le croient à tort quelques-uns, les idées et les théories des savants modernes, pour la seule raison que ces idées sont en opposition avec la théosophie. La première règle de notre société est de rendre à César ce qui appartient à César. Les théosophes sont donc les premiers à reconnaître la valeur intrinsèque de la science. Mais lorsque ces grands prêtres font de la conscience une sécrétion de la substance grise du cerveau et de tout ce qui existe encore dans la nature un mode de mouvement, nous protestons contre une telle doctrine comme étant antiphilosophique, en contradiction avec elle-même et simplement absurde au point de vue scientifique, autant et même plus que sous l'aspect occulte de la connaissance ésotérique. Car réellement, la lumière astrale des kabbalistes que l'on raille renferme d'étranges et curieux secrets pour celui qui peut y plonger ses regards, et les mystères cachés sous ces ondes constamment en mouvement sont bien là, en dépit des matérialistes et des moqueurs. La lumière astrale des kabbalistes est très incorrectement assimilée par quelques-uns à l'éther. Ce dernier est confondu avec l'éther hypothétique de la science, et que quelques théosophes font allusion à tous les deux comme étant synonymes d'aquasha. C'est une grande erreur. L'auteur de A Rational Refutation écrit, aidant ainsi l'occultisme sans s'en douter, « La mise en relief des qualités de l'aquasha servira à démontrer comment il est imparfaitement représenté par éther. En dimension, il est infini. Il n'est pas composé de parties. Et la couleur, le goût, l'odeur et la tangibilité ne font pas partie de ses attributs. Jusqu'ici, il correspond exactement au temps, à l'espace, à Ishvara, le Seigneur, ou plutôt le pouvoir créateur et l'homme, Anima Mundi, et à l'homme. Sa spécialité comparativement consiste en ce qu'il est la cause matérielle du son. S'il ne l'était pas, on pourrait croire qu'il ne fait qu'un avec le vide. C'est le vide, assurément, surtout pour les rationalistes. En tout cas, l'aquasha produira à coup sûr le vide dans le cerveau d'un matérialiste. Néanmoins, bien que l'aquasha ne soit certainement pas l'éther de la science, pas plus que l'éther de l'occultisme que celui-ci ne définit que comme l'un des principes d'aquasha, il est certainement, lui et son primaire, la cause du son, cause psychique et spirituelle, mais nullement matérielle. Les relations de l'éther avec l'aquasha peuvent être définies en appliquant à l'aquasha comme à l'éther les mots dont on se sert en parlant du Dieu dans les Védas. Deux points, ouvrez les guillemets. Ainsi lui-même fut en vérité son propre fils. Fermez les guillemets. L'un étant le produit de l'autre et cependant lui-même. C'est peut-être une énigme difficile pour les profanes, mais très facile à comprendre pour un hindou, même s'il n'est pas un mystique. Ces secrets de la lumière astrale, ainsi que bien d'autres mystères, resteront ignorés des matérialistes de notre époque, de même que l'Amérique fut un mythe inexistant pour les Européens pendant la première partie du Moyen-Âge, alors que les Scandinaves et les Norvégiens avaient réellement atteint ce très ancien Nouveau Monde et s'y étaient établis plusieurs siècles auparavant. Mais de même qu'un colon naquit pour découvrir de nouveau et pour forcer le Vieux Monde à croire aux antipodes, de même les savants naîtront qui découvriront les merveilles que les occultistes déclarent dès à présent exister dans les régions de l'éther, avec leurs divers et multiformes habitants et leurs entités conscientes. Alors, nolens volens, la science sera forcée d'accepter la vieille superstition comme elle en a déjà accepté tant d'autres. Et une fois qu'elle aura été forcée de l'accepter, il est très probable que ses professeurs érudits, à en juger par l'expérience du passé, comme dans le cas du mesmérisme et du magnétisme, aujourd'hui baptisé hypnotisme, adopteront la chose et en rejeteront le nom. Le choix de la nouvelle application dépendra à son tour des modes de mouvement, le nouveau nom donné à l'ancien processus automatique physique dans les fibres nerveuses du cerveau scientifique de Moleschott, et aussi sans doute du dernier repas qu'aura fait l'individu qui donnera le nom, puisque suivant le fondateur du nouveau système ilo-idéaliste, la célébration est génériquement la même chose que la chilifisation. Par conséquent, si l'on devait croire à cette absurde proposition, le nouveau nom de la vérité archaïque devrait dépendre de l'inspiration hépatique du parrain, et ce n'est qu'alors que ces vérités auraient la possibilité de devenir scientifiques. Mais la vérité, si désagréable qu'elle soit à la majorité, ordinairement aveugle, a toujours eu ses défenseurs prêts à mourir pour elle, et ce ne sont pas les occultistes qui protesteront contre son adoption par la science sous quelque nouveau nom que ce soit. Mais jusqu'au moment où elle se sera imposée à l'observation et à l'approbation des savants, plus d'une vérité occulte sera tenue à l'écart, comme l'ont été les phénomènes des spirites et d'autres manifestations psychiques, pour être finalement prise par ses ex-calomniateurs sans la moindre reconnaissance ni le moindre remerciement. L'azote a ajouté considérablement à la science chimique, mais Paracelse, qui l'a découvert, est encore appelé un charlatan. Combien vraies sont les paroles de Buckle dans son admirable History of Civilization lorsqu'il dit « Grâce à des circonstances encore inconnues, de grands penseurs apparaissent de temps en temps, qui, consacrant leur vie à un seul but, sont capables de devancer le progrès de l'humanité et de fonder une religion ou une philosophie, grâce à laquelle des effets importants sont finalement produits. » Mais si nous cherchons dans l'histoire, nous verrons clairement que, bien que l'origine d'une nouvelle opinion puisse être ainsi due à un seul homme, le résultat produit par la nouvelle opinion dépendra des conditions du peuple parmi lequel elle aura été propagée. Si une religion ou une philosophie est trop avancée pour une nation, elle ne peut rendre aucun service pour le moment, mais doit attendre que les esprits des hommes soient mûrs pour la recevoir. Chaque science, chaque credo a eu ses martyrs. Selon le cours ordinaire des choses, quelques générations passent, puis vient une période où ces mêmes vérités sont considérées comme des choses banales, et un peu plus tard il en vient une autre, où elles sont déclarées nécessaires et où l'intellect le plus obtus s'étonne lui-même que l'on n'ait jamais pu les nier. Il est simplement possible que les esprits des générations actuelles ne soient pas mûrs pour la réception des vérités occultes. Tel sera probablement le résultat du coup d'œil rétrospectif jeté par les penseurs avancés de la sixième race racine sur l'histoire de l'acceptation de la philosophie ésotérique, pleinement et sans restriction. En attendant, les générations de notre cinquième race continueront à être égarées par des préjugés et des préventions. On se moquera des sciences occultes à chaque coin de rue, et tout le monde essaiera de les ridiculiser et de les écraser, au nom et pour la plus grande gloire du matérialisme et de sa soi-disant science. Les présents volumes, cependant, montrent en répondant par anticipation à plusieurs des futures objections scientifiques les véritables positions réciproques du défenseur et du demandeur. Les théosophes et les occultistes sont mis en accusation par l'opinion publique qui déploie toujours la bannière des sciences inductives. Ces dernières doivent donc être examinées, et il faut établir jusqu'à quel point leurs exploits et leurs découvertes dans le royaume de la loi naturelle sont en opposition, non pas tant avec nos prétentions qu'avec les faits de la nature. L'heure a maintenant sonné de savoir si les murs de la moderne Jéricho sont si inébranlables qu'aucun souffle de la trompette occulte ne puisse jamais les faire crouler. Les prétendues forces ayant à leur tête la lumière et l'électricité et la constitution du globe solaire doivent être examinées avec soin ainsi que la gravitation et les théories des nébuleuses. La nature de l'éther et des autres éléments doit être discutée en opposant les enseignements scientifiques aux enseignements occultes, tout en révélant quelques-unes des données encore secrètes de ces derniers. Il y a une quinzaine d'années, l'auteur était la première à répéter, après les kabbalistes, les sages commandements du catéchisme ésotérique. 2. Ferme ta bouche de peur de parler de ceci, entre parenthèses le mystère, et ton cœur de peur de penser tout haut, et si ton cœur t'a échappé, ramène-le à sa place, car tel est l'objet de notre alliance. Extrait du Zéphir Jésira. Ou bien encore, les règles de l'initiation. 2. Ceci est un secret qui donne la mort. Ferme ta bouche de peur de le révéler au vulgaire. Comprime ton cerveau de peur que quelque chose ne s'en échappe et ne tombe au dehors. Quelques années plus tard, un coin de voile d'Isis dut être soulevé et maintenant on y fait une déchirure plus grande encore. Mais les anciennes erreurs consacrées par le temps, celles aussi qui deviennent chaque jour plus manifestes et plus évidentes, sont rangées maintenant en ordre de bataille comme elles l'étaient alors. Guidées par un aveugle esprit de conservatisme, par la vanité et les préjugés, elles veillent toujours, prêtes à étouffer toute vérité, qui se réveillant de son long sommeil séculaire frappe à la porte. Et cela est ainsi depuis que l'homme est devenu un animal. Mais si le fait de rendre à la lumière quelques-unes de ces antiques vérités entraîne chaque fois la mort morale du révélateur, il est non moins vrai que celui-ci apporte vie et régénération à ceux qui sont à même de profiter du peu qu'il aurait révélé maintenant. Fin du premier volume de l'édition française.